Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, j'espère que vous êtes en forme, c'est l'heure du podcast des maternelles, podcast France Télévisions. Et aujourd'hui, une histoire très forte, douloureuse, celle de Colline. Colline, enfant, elle a été kidnappée au Guatemala, puis adoptée en Belgique. Une histoire très forte, vous allez l'entendre, qui se termine bien. Colline, on la remercie infiniment d'être venue nous voir, d'avoir accepté de raconter son histoire. Nous serons juste après ce témoignage avec une psy, Manuela Bro. On écoute.
De 1960 à 1996, une guerre civile déchire le Guatemala. Elle va faire de nombreux disparus et parmi eux, des milliers d'enfants victimes de trafic d'adoption. Nous recevons l'une de ces enfants ce matin. Bonjour Colline.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation pour raconter votre histoire. Vous avez été accueillie à 11 mois par une famille belge qui pensait, alors on va le dire tout de suite, adopter un enfant en toute légalité. Et c'est à 31 ans que vous avez découvert que vous êtes une enfant volée. Vous êtes partie à la recherche de votre famille biologique qui vous croit, elle, décédée. Vous avez depuis créé une fondation qui s'appelle Racines perdues et vous racontez votre histoire dans ce livre « Maman, je ne suis pas morte ». Livre que vous signez de vos deux noms, parce que vous êtes Colline en Belgique et vous êtes Mariella au Guatemala. Vos parents adoptifs vous ont expliqué très très tôt que vous aviez été adoptée et puis vous avez lancé quelques recherches non abouties sur vos origines en 2010. Vous avez laissé votre dossier d'adoption au placard. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes replongée dans votre passé à un moment ?
Le fait d'être maman. Donc, j'avais une petite fille en 2017 qui avait 5 ans et demi, qui était blonde aux yeux bleus et qui ne comprenait pas pourquoi elle n'était pas une indienne du Guatemala, alors indienne ou indigène. Et j'avais pas de réponse à lui donner. Donc, quand elle me pose frontalement et innocemment cette question, je ne sais pas lui répondre.
Et ça a créé un déclic chez vous. Vous vous êtes dit, ah, il faut absolument que j'aille quand même au bout de ces recherches.
Exactement. Oui.
Alors, à 31 ans, vous avez donc démarré c'est un vrai travail d'enquête, hein, Colline, que vous avez fait. Comment est-ce que vous en êtes arrivée à découvrir ce fameux trafic d'enfants ?
De contact en contact, j'ai découvert des articles de presse de journalistes qui avaient investigué sur la question. Et puis, il y avait un nom qui figurait dans les articles, qui était en fait un nom que je retrouvais dans mon dossier d'adoption. Donc, j'étais assez vite aux portes de cette vérité, finalement, de trafic d'êtres humains.
Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez découvert ça ?
Je pense que c'est un choc, hein. C'est vraiment un choc au niveau émotionnel. On est atterrés, en fait, on se dit « c'est pas possible, je peux pas être concernée ». Et tant qu'on n'a pas notre histoire en main, on ne peut pas définir, évidemment.
Oui, en préparant cette émission, vous nous avez même dit que vous étiez restée en état de sidération, oui. Carrément, après cette nouvelle.
Oui, complètement.
Et vous avez trouvé des articles sur le sujet. Vous avez commencé à comprendre, à essayer de voir ce qui s'était passé.
Oui, c'est ça. C'est un peu comme une pelote de laine. Une fois qu'on commence à tirer le fil, en fait, il y a tout qui se dénoue. Et la vérité n'est pas belle, effectivement.
Alors, en parallèle, vous avez essayé de retrouver la trace de votre mère biologique. Et puis, le 30 novembre 2017, sur Facebook, au cours de vos recherches, il y a un profil qui vous saute aux yeux. Vous pouvez nous raconter ?
Oui, donc je découvre l'identité qui figure dans mon dossier sur Facebook. Je découvre cette photo qui va changer en fait ma vie parce que je découvre en fait ma maman biologique. Je vois sur le fil d'actualité, effectivement, qu'elle fait mention d'un enfant qu'elle a perdu tous les 7 novembre. Malheureusement ou heureusement, dans mon cas d'adoption, la date de naissance qui avait été donnée à mes parents, effectivement, était le 7 novembre, bien qu'elle ait été changée par après. Et donc, cette coïncidence n'était pas vraiment une coïncidence.
Vous vous dites déjà, alors ce que vous ne dites pas, c'est que quand vous voyez la photo, vous vous dites c'est moi, quoi.
Complètement.
La ressemblance physique est hallucinante.
C'est, oui, de tous ces enfants, c'est moi qui lui ressemble le plus. Oui.
Donc, il y a ça. Il y a effectivement le fait qu'elle mentionne la perte d'un enfant, ce fameux 7 novembre. Donc vous êtes persuadée que c'est elle. Vous lui envoyez un message. Et puis ce message reste sans réponse. Comment vous avez fait alors ? Ça a dû être terrible, ça.
C'était horrible. Ça a duré 12 jours, mais j'ai l'impression que ça a duré une vie. J'ai contacté une de ses filles, qui était ma grande sœur, par message, et elle a répondu. Elle a répondu.
C'est ça, vous êtes allé voir dans ses amis sur Facebook, vous avez vu, dans sa famille, vous avez vu qu'elle avait une fille et vous lui avez écrit. Est-ce qu'elle vous a répondu ?
Oui, au début, elle ne me croyait pas du tout. Elle m'a demandé qui j'étais, ce que je voulais. Mon espagnol était en plus pas très au top à l'époque. Et donc là, elle m'a directement dit, mais tu me ressembles, mais qui es-tu ? Donc là, je lui dis, je m'appelle Mariella. Et là, elle me dit, c'est impossible. Mariella, elle est morte en 1986.
Et elle a prévenu sa maman, qui est aussi la vôtre. Et là, bah, c'est la nuit du 12 au 13 décembre. Vous recevez un message écrit et puis un appel vidéo de votre mère biologique. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette nuit absolument hallucinante pour vous ?
Oui, donc j'ai reçu la fameuse notification qu'on attend depuis beaucoup de jours. Et là, je lis, mais alors il faut quand même se rendre compte que je ne parlais plus du tout l'espagnol, donc j'ai dû faire copier-coller, Google Translate. Enfin, émotionnellement, ça rajoute encore quelque chose à ce qui se passe, parce qu'il faut décoder en plus une langue qui est étrangère.
Bien sûr.
Et donc là, elle m'écrit « Bonjour, mon bel amour ». C'est comme ça qu'elle a écrit « Bonjour, mon bel amour ». Je crois que je suis ta maman, ils m'ont dit que tu étais morte. Et là, le monde s'arrête, quoi. C'est vraiment le temps de faire la traduction. J'essaye de lui répondre. Enfin, je balbutie quelques... Enfin, j'écris quelques petits trucs, mais c'est juste des smileys, en fait, des smileys qui pleurent parce que je ne sais plus parler non plus. Je suis même émue de le raconter encore maintenant. Et puis là, elle va m'appeler en vidéo. Et quand je vais décrocher, là, c'est vraiment... c'est la sidération, en fait. Pour elle, pour moi, enfin, c'est affreux, en fait, de la voir... de la voir qui hurle parce que voilà, c'est son bébé. Elle me demande où je suis, elle me dit dans quelle ville es-tu. Il faut que je lui explique que je suis en Europe, que je suis en Belgique. Et là, pour elle, c'est l'autre bout du monde. Elle ne sait même pas où c'est, la Belgique. Donc, elle dit, mais t'es où? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon bébé. Enfin, voilà, je pense qu'aucune mère au monde pourrait comprendre, accepter.
Elle a compris que vous aviez été volée, en fait, que vous aviez été kidnappée.
Oui. Ouais, ça, assez vite, elle me pose la question... Mais comment ils ont fait pour te nourrir? Parce qu'en fait, elle m'explique que... Moi, je ne sais pas, j'ai été adoptée à 11 mois, mais je ne sais pas ce qui s'est passé avant.
Mmh. Et elle on va reparler, parce que vous avez découvert ça aussi. Quelle émotion, quand même, cet échange, ça a dû être et pour elle et pour vous, d'autant que vous avez appris qu'elle avait fait une petite tombe, vous croyant morte, qu'elle allait se recueillir, donc finalement, sur une tombe vide, et pour une petite fille qui est bel et bien vivante. Donc, votre adoption n'a jamais été déclarée au Guatemala, et tous les documents qui ont servi à votre adoption en Belgique sont faux. Ça veut dire que vos parents adoptifs, sans le savoir, ils sont revenus du Guatemala avec une enfant volée. Il fallait aussi leur annoncer la nouvelle à eux. Ça a dû être extrêmement choquant pour eux aussi.
C'était le plus compliqué, je pense, parce que moi, j'avais presque cette forme de culpabilité de revenir avec une vérité, en sachant qu'ils sont passés par un organisme agréé, etc. Donc, je dirais, en respectant toutes les règles, c'est quand même arrivé. Donc là, j'ai expliqué à ma maman dans un premier temps. Je lui ai montré la photo de ma grande sœur, vu qu'on se ressemble comme deux gouttes d'eau. J'ai montré la photo de ma grande sœur Lorena et ma mère m'a dit, mais je ne connais pas ce t-shirt, réflexe de maman, je ne l'ai jamais lavé. Et je lui dis, c'est pas moi, en fait, maman. Et là, j'ai vu c'est vraiment son regard qui s'est ouvert et qui m'a dit, oh, tu les as retrouvés. Et j'ai dit, oui, je les ai retrouvés. Et donc, voilà, on a commencé à expliquer. Et elle me dit, mais je suis tellement désolée. Je suis tellement désolée de ce qui s'est passé, de ce qui t'est arrivé, etc. Mon papa, ça a été un peu plus une réaction masculine, peut-être. C'était, au début, non, c'est pas possible. Bien qu'il me croyait, mais il me dit, c'est pas possible. Et puis après, il m'a dit, écoute... tu vas retourner là-bas, en fait. Et puis mes parents m'ont accompagnée vraiment d'une manière hyper bienveillante.
Alors, vous avez retrouvé pour la première fois votre maman de naissance, vos frères, vos sœurs. C'était le 31 janvier 2018 à l'aéroport de Guatemala City. Est-ce que vous pouvez nous raconter déjà comment est-ce que vous êtes arrivée, quand vous avez atterri avec cet avion? Dans quel état est-ce que vous étiez?
J'étais pétrifiée. alors, je dis toujours, j'ai peut-être pas fait ça de la meilleure manière qui soit. Parce que au niveau psychologique, je suis partie toute seule. Je parlais plus la langue, mais voilà, il y a quelque chose qui intérieurement me disait il faut que tu le fasses. J'étais complètement en panique, en fait. En plus, j'avais quitté Madrid pour faire l'escale et je savais que ma famille m'attendait. Personne ne dormait évidemment. Et puis arriver là-bas, c'est un peu la délivrance, même si c'est très très dur. Le fait de la voir, déjà d'arriver sur un aéroport qu'on ne connaît pas, vraiment de fouler les terres finalement où je suis née. Et puis les odeurs, enfin tout, on retient tout comme si c'était le dernier moment d'une vie, alors qu'en fait c'est juste le début d'une nouvelle vie.
Le premier jour du reste de votre vie.
Exactement.
Et vous êtes serrée dans ses bras. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez été pour la première fois en contact avec elle, physique?
Ce qui m'a vraiment attiré l'attention, c'était sa peau qui était très froide, parce qu'elle patientait depuis des heures, je pense, à l'aéroport. Ses larmes aussi, c'est son parfum, c'est quelque chose, c'est ce moment-là, cette étreinte-là. Et puis ses premiers mots, parce que... Enfin, ses premiers mots. Ma mère, ses premiers mots, mais c'était mon bébé. J'étais plus un bébé, je suis rentrée, j'avais 30 ans.
Mais vous êtes sentie avec quelque chose de familier, il y a une espèce de reconnaissance?
Ouais, complètement. C'était très animal, très instinctif.
C'était charnel?
Ouais, vraiment.
Donc vous avez vraiment reconnu votre maman, là, pour le coup?
Oui, je pense qu'on s'est tous reconnus, parce que mes frères et sœurs aussi étaient là, on était une vingtaine presque. Oui, vraiment, c'était...
Alors pendant ce séjour, votre maman vous en a dit plus sur votre naissance et sur votre séparation. Qu'est-ce qui s'est passé pour elle?
Donc son histoire, elle accouche à l'hôpital, elle ressort parce que j'ai un grand frère et une grande sœur, suite à quoi elle repart, après j'ai de la fièvre, donc elle me représente à l'hôpital. On va lui dire qu'il faut m'hospitaliser, elle aussi est hospitalisée, mais on est séparés. Donc moi je pars en pédiatrie et elle part en médecine générale. Et puis, au bout de quelques heures, elle va demander pour voir son bébé. On va lui dire qu'il n'y a plus de bébé, qu'elle a été transférée dans un autre hôpital sans son accord. Et là, ma mère, évidemment, va me chercher. Elle ne va jamais me retrouver. Et on va lui annoncer que son bébé est décédé et qu'elle n'a pas la possibilité de voir le corps.
Et puis après, vous avez rencontré d'autres enfants qui avaient été dans votre cas, hein, qui avaient été adoptés au Guatemala. Et vous avez appris, puisque vous parlez de ces 11 premiers mois qui restaient un mystère pour vous et pour votre mère biologique aussi, et vous avez appris dans quelles conditions étaient gardés ces bébés, qui étaient terribles.
C'est ça. Donc, ma maman, c'était vraiment sa hantise, enfin, son questionnement, où est-ce que tu as été, où est-ce que tu es restée. Et puis, en fur et à mesure des recherches, j'ai découvert des photos où, effectivement, on était attachés à des lits d'adultes avec des cordes. Il y a eu toute une enquête aussi de police où les enfants ont été sauvés, remis, enfin, dans le circuit de l'adoption. C'est assez flou encore, tout ça.
Ce qui est fou, c'est que ça, du coup, ça a expliqué pas mal de choses qui vous... pas mal de traumatismes qui vous empêchaient, entre guillemets. C'est notamment ces pieds attachés.
Oui, c'est ça. Enfin, il y avait des choses qui étaient inexplicables, notamment ben, le fait que je cachais de la nourriture quand j'étais petite. Je pleurais jamais, jamais, jamais. Le fait aussi des couvertures, je détestais avoir des couvertures sur les pieds. Enfin, voilà, c'est des choses qui ne s'expliquent pas, ou même la peur de qu'on me vole mes enfants à la maternité. Mais tout ça, en fait, maintenant, ça a fait sens, mais il a fallu avoir les clés de l'histoire pour comprendre, quoi.
Bon, et bien la prochaine étape, ce sera peut-être que votre famille adoptive aimante, qui vous a finalement parfaitement aimé, qui s'est très bien occupée de vous, rencontre peut-être votre famille biologique. Qui sait? Je sais que ça va prendre du temps.
Oui, ça prendra du temps. J'espère un jour quand je serai prête. Eux sont tous prêts, mais moi pas encore.
C'est vrai?
Ouais, c'est compliqué.
Bonjour Manuela Brou, merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue, chercheur en sciences de l'éducation et spécialisée dans le psychotrauma et le concept de résilience. Vous avez notamment participé aux ouvrages « Récits et résilience, quel lien ?» C'est chez L'Harmattan, et « Mettre l'expérience en mots » chez Chronique Sociale. On l'a vu, hein, alors c'est vrai que depuis qu'elle a appris son traumatisme, qu'on n'a pas vraiment dit, c'est que Colline est suivie par une psychiatre spécialisée en choc post-traumatique. Mmh. Est-ce qu'il y a des symptômes qui peuvent apparaître des années après? Là, on a vu qu'elle, dès petite, en fait, elle pleurait pas, elle cachait la nourriture, donc en réaction à ce qu'elle avait vécu quand elle était à l'orphelinat. Est-ce que ça peut se manifester très longtemps après?
Alors oui, c'est possible, même si en règle générale, on a plutôt des symptômes dans les semaines, dans les mois qui suivent. C'est possible d'avoir des symptômes très longtemps après, mais là, ce que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est que j'ai l'impression que l'événement traumatisant n'est pas tant l'adoption que finalement la révélation du contexte de la réelle histoire de son abandon. Et finalement, c'est au moment de la révélation des faits que son histoire n'est pas celle qu'elle croyait. Et j'ai l'impression que c'est ça plutôt qui vient faire traumatisme.
Oui, et du coup, choc en tout cas.
Voilà, et finalement, donc les conséquences sont finalement... assez proche dans le temps, en fait.
Mmh. On a reçu beaucoup de questions, notamment celle de Jade, qui vous dit « J'ai toujours su que j'étais adoptée. J'aimerais lancer des recherches plus poussées sur mes origines, mais j'ai peur de découvrir des choses trop dures. Que me conseillez-vous ?»
Ouais. Oui, ça, c'est vraiment un cas, une situation que l'on croise régulièrement. En fait, les enfants adoptés, souvent, ils imaginent qu'il y a des forces extérieures qui ont contraint leurs parents à les abandonner, parce que c'est très difficile d'imaginer que notre mère a pu nous abandonner. Et en fait, quand ils vont à la rencontre de leur histoire, eh bien, il y a souvent une différence. Ils se rendent compte que leur mère les a abandonnés, eh bien, en fait, volontairement. Même si dans l'après-con, on se rend compte aujourd'hui que l'adoption, c'est plutôt un acte d'amour, de l'acte d'amour d'une mère qui, finalement, s'est dit, aujourd'hui, cet enfant, je n'ai pas les moyens de lui proposer voilà, un environnement sécurisant. Donc finalement, bah, oui, je vais lui donner une chance. L'abandon est une chance pour cet enfant de grandir dans un autre milieu. Et je pense à un de mes patients, un jeune patient qui, finalement, que j'ai accompagné dans cette histoire-là. Et justement, il était confronté à ça. Il a été adopté assez tardivement. Il avait grandi en foyer dans son pays d'origine. Et donc, pour lui, ses parents étaient décédés d'un accident de voiture, avec quelque chose d'un peu romanesque, le tragique. Mes parents sont décédés d'un accident de voiture. Et il a retrouvé sa grand-mère par les réseaux sociaux. Et quand il est retourné au pays, en fait, il a appris que... il avait été conçu suite au viol de la famille aisée pour laquelle travaillait sa grand-mère en tant que bonne, en fait. Et son père avait le sida, il l'a transmis à sa mère, et ils sont tous les deux décédés du sida. Donc une histoire vraiment tragique, et clairement, oui, effectivement, il faut être accompagné pour retrouver...
Il faut se préparer.
Il faut se préparer. Et une chose vraiment très importante, c'est que quand on retrouve sa famille biologique, ça n'efface absolument pas le lien qui est créé avec la famille adoptive. C'est une double... C'est une autre filiation, c'est additive. On ne soustrait rien à la famille adoptive, on ajoute... C'est additionnel. Et je trouve que c'est aussi à l'image de... Je pense à Colline qui a deux prénoms, c'est ça, qui a ses deux prénoms.
Oui, Marina
qui
représente... et Colline, oui.
Voilà. Mais finalement, c'est la même chose, c'est additif. Voilà, on n'a pas à choisir entre son père et sa mère, on n'a pas à choisir entre sa famille adoptive et sa famille biologique. Les deux sont importantes.
Célia nous dit « Ma mère a été adoptée et a vécu de gros chocs. Elle vous demande si les traumatismes se transmettent de génération en génération. Puis-je avoir besoin de travailler dessus alors que je ne les ai pas vécus moi-même ?»
Ouais. Alors là, c'est tout ce qui confère à l'épigénétique. Donc on sait qu'on transfère quelque chose au niveau des gènes, mais on est plus de l'ordre de transmettre une information que l'on transmet un traumatisme. Et en fait,
ce qui est important, c'est qu'elle le sache, en fait.
Voilà.
On dit que les secrets de famille, en revanche, laissent des traces, mais les informations moins.
Exactement. Et là, franchement, si elle a des symptômes, moi, je pense qu'il faut surtout qu'elle aille travailler ses symptômes, en incluant le fait que sa maman a été traumatisée. Mais on ne transmet pas le traumatisme. Par contre, un parent qui n'a pas retravaillé son traumatisme peut avoir des séquelles au quotidien. Et finalement, c'est cet environnement qui peut provoquer aussi des séquelles un peu en domino par rapport aux enfants.
Justement, pour travailler tout ça, Florent vous demande, y a-t-il des thérapies plus adaptées que d'autres pour remonter la pente après un événement traumatique ?
Alors, plus adapté, en fait, tout dépend de ce qu'on veut travailler. Est-ce que c'est le trauma global ? Est-ce que c'est un symptôme particulier ? Parce qu'on peut travailler le traumatisme de manière globale avec les thérapies basées sur la parole, thérapie narrative. On cherche à mettre du sens sur ce qu'on a vécu. On cherche à décoller les émotions toxiques, négatives qui viennent empoisonner le quotidien de l'événement. Ça, c'est un peu la thérapie plus ordinaire. On parle aussi beaucoup en ce moment de MDR. Oui. Qui est plutôt intéressant. Quand on a vraiment une situation très, très précise à travailler, on a une situation très précise. Et là, on peut travailler avec le MDR qui va travailler sur cette situation. On a aussi les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales, pareil, très en vogue, qui permettent de travailler un symptôme très précis. J'ai une patiente qui a été agressée sexuellement et donc elle a des pensées. Elle imagine que tous les hommes, maintenant, sont des potentiels agresseurs en puissance. Mm-hmm. Donc, on vient travailler cet élément-là. Donc, on contrebalance. Et alors, anecdote véridique, donc on contrebalançait. Donc je lui faisais travailler sur quels sont les hommes ressources dans son environnement. Elle me dit, j'en ai pas, si ce n'est le mari de ma sœur, il est très gentil, c'est un bon papa, mais il n'y a qu'avec lui, je me sens bien. Donc on est allé un peu plus loin, et véridique, elle me dit, le matin, je regarde les maternelles, elle me dit, Benjamin, il est très gentil, lui, il n'y a pas de souci,
voilà.
Je me sens pas en danger.
Mafalda vous demande pourquoi les conseillez-vous après un traumatisme ? C'est une thérapie courte, certes, mais ça ne soigne que les symptômes.
C'est ça.
C'est typiquement ça. Les symptômes, c'est des TOC, par exemple, qu'on aurait après.
Oui, ou des troubles du sommeil, des cauchemars. Il faut à chaque fois réfléchir à quel est le besoin de la personne. Si la personne, suite à un traumatisme, j'évoque ma patiente de tout à l'heure, elle, sa plus grosse difficulté dans la vie, c'est qu'elle est bloquée par rapport aux hommes, elle n'arrive plus à parler à un homme. Donc c'est vraiment ça qu'on vient travailler, c'est sa demande. Donc en fait, il faut répondre à la demande de la personne. Est-ce qu'elle veut travailler le traumatisme de manière générale ou est-ce qu'elle a simplement besoin de travailler un symptôme ? Faut se fier à sa demande, en fait.
Elle n'arrive plus à parler aux hommes.
C'est ça.
Oui, parce qu'elle a créé une peur panique.
C'est ça, de l'homme, parce qu'elle voit chaque homme comme un potentiel agresseur en puissance. Donc il faut retravailler, déconstruire ses pensées.
Adèle vous dit, j'ai vécu des épreuves difficiles, mais je ne me rends pas compte à partir de quand on peut parler de traumatisme. Est-ce que ce n'est pas complètement subjectif ?
Oui. Alors oui, non. Alors non, parce qu'en fait, le traumatisme, on sait maintenant à la neuroimagerie cérébrale qu'on voit des traces, on voit des lésions au niveau du cerveau, au niveau du cervelet.
Ah donc, oui.
Mais honnêtement, quand les patients viennent me voir et qu'ils me disent bon bah j'ai été traumatisée, je vais pas leur dire ouais. Bon vous allez passer une IRM. Ce qui est vraiment important, c'est d'entendre quand le patient nous dit bah je me sens traumatisée par cet événement. Ok, c'est une blessure intense, on va la travailler. Alors après, on a des signes cliniques qu'on retrouve. En général, ce qui m'embête toujours, c'est que quand on donne les listes, les gens essayent de se dire « Alors, est-ce que je coche toutes les cases ?» Mais généralement, on retrouve des pensées intrusives, des flashbacks, un sentiment d'impuissance, une très grande anxiété, potentiellement des troubles du sommeil, de l'alimentation, de la sexualité. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas coché toutes les cases qu'on n'a pas vécu un traumatisme. Et je pense que le danger, quand on donne ces listes, c'est que la personne se dise « Oh, ben, finalement, j'ai qu'une case cochée, donc je n'ai pas été traumatisée, donc je ne suis pas légitime potentiellement à souffrir, ni même aller consulter. Et je pense qu'à partir du moment où on se sent mal, il faut aller consulter. Et même si on se sent traumatisé et qu'on n'aurait pas en théorie l'étiquette scientifique du traumatisme, c'est pas grave.
Juste pour compléter la question précédente, quand on dit effectivement que les thérapies courtes ne soignent entre guillemets que les symptômes, est-ce qu'il faut de ce fait l'additionner à une thérapie classique ou... Bah, est-ce qu'il faut faire les deux ou...
C'est toujours en fonction du besoin de la personne, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie d'aller chercher trop loin, je pense notamment à l'hypnose, où on va aller chercher un peu plus dans l'inconscient. Il y a des personnes qui ne sont pas prêtes. Mm-hmm. Donc il faut respecter vraiment leurs demandes et pourquoi est-ce qu'elles viennent nous voir. Est-ce qu'elles veulent travailler le traumatisme en profondeur? Et oui, on peut travailler potentiellement avec l'hypnose de manière plus générale. On peut travailler aussi avec des thérapies plus classiques, mais il faut vraiment se fier à la demande de la personne, c'est ça qui est important. Et ce n'est pas au psychologue de savoir ce dont le patient a besoin. Il faut vraiment l'écouter. Je trouve qu'on ne le fait pas suffisamment.
Alors, cette question de Jody, qui a été abusée par son frère petite, mes proches sont dans le déni, me reprochent de remuer le passé après des années de thérapie. Je n'arrive pas à m'en sortir. Elle vous demande comment trouver une aide efficace. Il y a beaucoup de choses là, dans ces trois phrases.
Oui. Ça me fait penser à une patiente qui a vécu exactement la même situation. Alors, je cite, désolée pour les gros mots, mais sa famille lui disait « Arrête de foutre la merde dans la famille.
» Et concrètement... C'est un classique, notamment dans les victimes d'inceste, exactement. Où on reproche à la victime...
C'est un très grand classique parce qu'en fait, les familles, surtout en défaut de protection des enfants, donc c'est beaucoup plus facile, voire beaucoup plus lâche, clairement, de faire comme si ça n'existait pas et on met tout sous le tapis. Et si t'es pas content, eh ben écoute, t'as qu'à partir. Et là, concrètement, moi, j'ai pas d'autre conseil à donner que si à l'instant T, on n'est pas reconnu par sa famille comme victime, eh ben il vaut mieux couper les ponts, au moins momentanément, le temps de se reconstruire. C'est très compliqué d'avoir de l'espace et pour se reconstruire et d'avoir de l'espace disponible pour lutter, pour continuer à être reconnu. Donc, c'est presque antinomique. Donc, si on est en train de lutter pour être reconnu dans son statut de victime, on n'est pas en train de se réparer. Donc, il vaut mieux prendre de la distance, se réparer, et on verra plus tard.
Est-ce qu'on ne peut pas se réparer sans vouloir de statut de victime, justement ? Il y en a pour qui, justement, le statut de victime, c'est lourd à porter. Ils n'ont pas envie d'être une victime toute leur vie.
Alors, je suis d'accord. Après, il y a peut-être le statut de victime au moment où on est dans le cabinet du psy et qu'on dit, bah oui, j'ai vécu ça. Et puis, il y a plutôt ce qu'on appelle les carrières de victimes.
Ouais.
Les personnes qui cherchent des bénéfices secondaires ad vitam aeternam parce qu'elles ont vécu quelque chose. Je pense qu'effectivement, les carrières de victime, c'est très compliqué. Le statut de victime, c'est quand même important à un moment pour soi-même de reconnaître que oui, on a été victime. Mais ce n'est pas parce qu'on a été victime à un moment donné
on
dans
reste
une situation.
Victime.
Exactement. Mmh. Et ça nous définit. Pas. C'est pas une définition d'être victime en fait. C'est à un moment donné, on est victime, oui.
Roxane vous dit « J'ai découvert que ma fille avait été harcelée à l'école pendant des mois. Elle est très marquée par cette période. Comment puis-je l'aider en tant que maman à reconstruire sa confiance ?»
Alors déjà, en écoutant sa fille et vraiment en accueillant cette parole de manière inconditionnelle, c'est-à-dire ne jamais remettre en question la parole des enfants. Des fois, les enfants essayent de parler et puis ils ne trouvent pas toujours une oreille attentive parce que « Oui, mais t'es sûre, tu sais, c'est des chamailleries entre enfants, c'est peut-être pas très grave. » Et du coup, des fois, ça bloque l'enfant et il ne se sent pas légitime et il ne parle plus. Donc, de un, ne jamais remettre en question la parole de l'enfant. Ensuite, je pense que ce qui est important, c'est d'alerter tout de suite l'institution scolaire. Et ça m'est arrivé aussi en tant que psy de rappeler à l'institution scolaire son rôle de protection des enfants qui lui sont confiés. Parce que parfois, j'ai envie de dire que l'institution scolaire fait un peu comme l'institution familiale, a tendance à dire ce sont des chamailleries d'enfants, parce qu'eux aussi ils sont remis en question dans une forme de défaut de protection des enfants. Donc concrètement, contacter l'institution, même si l'année scolaire est terminée, même si l'enfant a changé d'école, c'est important de prévenir l'institution et surtout de le dire à l'enfant. Mm-hmm. Tu vois ce qui s'est passé, c'est grave, on a prévenu, c'est important. Et même si c'est possible, de potentiellement provoquer un rendez-vous avec l'institution pour que l'enfant puisse expliquer ce qui lui est arrivé dans les détails. Et ça peut peut-être aussi aider aider l'institution à devenir plus vigilante à l'avenir. Et là, on est vraiment dans la résilience. L'enfant peut transformer ce qu'il a vécu, finalement, en quelque chose d'expérimental. Et peut-être que l'école va pouvoir s'en servir pour aider les autres. C'est chouette pour les enfants de se dire, oui, j'ai des victimes, mais moi, je vais peut-être aider les autres enfants à ne pas être harcelés plus tard.
Et le fait de voir que, pardon, que les parents et l'institution le protègent
double
toujours,
protection.
Ça va l'aider à avancer.
Bien sûr. Ça va le resécuriser, double protection. Personne ne remet en question ce qu'il a vécu. Et en plus, ils vont mettre en place des choses pour que ça n'arrive plus.
On remet la justice, quoi.
Exactement.
On remet quelque chose de normal dans tout ça.
On remet un cadre.
Ouais. Suzanne vient d'apprendre à 25 ans que sa mère l'avait abandonnée à la naissance et qu'elle a été adoptée sous. Pardon, que sa mère avait été abandonnée à la naissance et a été adoptée sous X. Suzanne nous dit : j'ai toujours été anxieuse, j'ai eu des tocs petites, des troubles alimentaires ados. Est-ce que ça peut être lié ?
Alors. Oui, ça peut être lié. Là, c'est un peu compliqué pour se prononcer exactement.
C'est différent de tout à l'heure. C'est-à-dire que ça a été un secret de famille, en tout cas.
Oui, là, ça a été un secret de famille, OK. Alors oui, ça peut être lié. Bah, l'essentiel, c'est quand même de travailler sur le symptôme. Hein. Et oui, d'intégrer ça dans le travail thérapeutique.
La réflexion globale.
La réflexion globale. Et c'est vrai que les secrets de famille peuvent... l'inconscient comprend plein de choses et met en place plein de choses. Donc, c'est important de poser les choses précisément et en prenant en compte et les symptômes et l'histoire de la famille et l'histoire de la maman, tous ensemble. Mmh.
Délia vous dit, il y a un mois, ma maman est décédée d'un accident de voiture, une perte violente et injuste. Vivre avec me paraît insurmontable. J'ai peur de passer ma tristesse à ma fille. Comment ne pas la plomber ? Difficile de gérer sa propre douleur.
C'est ça. Et c'est pour ça que, du coup, je pense que cette maman, elle a déjà suffisamment à faire à gérer sa tristesse. Et moi, je peux lui conseiller, évidemment, d'être accompagnée et d'avoir justement un endroit où elle va pouvoir lâcher, si elle a besoin de pleurer, de déposer et de craquer. Ce sera un endroit où elle sera en sécurité pour tout ça. Et justement, une fois qu'elle est accompagnée, surtout, c'est le dire à sa fille. Si tu sais, maman, elle est triste, c'est très difficile pour maman. Mais maman, elle est bien accompagnée. Elle a rentré une psychologue qui est gentille et qui va prendre soin d'elle. Et du coup, la petite fille, elle ne se sent plus le devoir de devoir protéger sa maman parce qu'elle sait que quelqu'un prend soin d'elle et que c'est un professionnel de santé. Donc, c'est rassurant pour les enfants. Ils n'ont pas à porter ça.
Karl nous dit « J'ai subi des violences de mes parents. Je suis aujourd'hui papa d'un garçon de 7 ans. J'ai coupé les ponts avec mes parents. Faut-il que je lui parle de mon parcours ? Et si oui, avec quel mot ? Son fils a 7 ans. »
Alors oui, clairement, il faut lui en parler, même le plus tôt possible, avec des mots les plus simples possibles. Si, par exemple, je pense aux fêtes de Noël, ils vont chez papy-mamie du côté maman et pas papy-mamie du côté papa, il faut expliquer aux enfants, même tout petit, tu sais, on va pas du côté voir papy-mamie du côté papa parce que quand papa était petit, ils ont été très méchants avec papa. Et papa, il est très blessé, il en souffre encore. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas les voir. Il faut que l'enfant puisse mettre du sens et comprenne pourquoi on va pas les voir à Noël. S'il comprend pas, il peut imaginer plein de choses, ça devient un secret de famille. Là, c'est Spielberg qui se met en place. Et souvent, c'est des espèces de fantasmes. Il y aurait eu des meurtres, des choses.
Voilà, qui sont toujours pires que la réalité.
Bien si pire que la réalité, c'est ça. Mmh. Et le dire avec des mots très simples. Et je pense qu'une fois que l'enfant est un peu plus grand, on peut même rajouter une petite dimension. C'est de dire à l'enfant, écoute, quand tu seras grand, on ne t'interdit pas d'aller les voir, mais ce ne sera pas avec papa. Mais on ne t'interdit pas d'aller les voir, tu as le droit de les rencontrer. Bon, je dis ça, il faut quand même vérifier que le contexte familial est quand même... Voilà, qu'il n'y ait pas de grandes difficultés, de violences sexuelles. Voilà, il faut quand même s'assurer de ça.
Je peux ?
Oui.
Par les temps qui courent, justement, avec le contexte de la guerre en Ukraine et les informations, il y a certains parents qui sont, je ne sais pas si on va dire traumatisés, mais qui vivent ça très mal, qui ont peur en étant ici. Qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Est-ce qu'il faut en parler aux enfants ? Parce que les enfants vivent aussi, entendent dans les cours d'école aussi qu'on parle de la guerre. Est-ce qu'il faut en parler aux enfants, leur dire « papa a peur » ou « maman a peur » ou...
Oui.
Est-ce qu'il faut voir...
Alors, tout dépend comment on le dit. Mais peut-être qu'avant de dire « papa ou maman a peur », c'est peut-être tout d'abord « papa et maman, ils sont touchés ». Parce que tu vois, il y a une guerre qui n'est pas très loin de la France. Et puis, tu vois, papa et maman, ils voient ses parents qui se déplacent avec leurs enfants. Et ils trouvent ça très, très triste. Donc, papa et maman, ils sont vraiment marqués. Et on a le droit de pleurer devant ses enfants. Le tout, c'est d'accompagner les larmes, c'est d'expliquer. Moi, en tant que maman, je suis très touchée parce que je vois ses mamans. Et je peux expliquer à ma fille, je suis extrêmement touchée. Et tu comprends, je t'explique pourquoi je suis touchée. On a le droit d'être vulnérable aux yeux de ses enfants. Et je pense même que c'est très important de montrer à ses enfants qu'on est vulnérable. Sinon, ça donne aussi un modèle un peu particulier. Alors oui, papa est très fort, mais papa ne pleure jamais. Je ne suis pas sûre que ce soit un modèle extraordinaire.
Pourquoi est-ce que moi, j'ai envie de pleurer ? Ça veut dire
c'est
que
ça.
Je suis moins bien que papa, je suis moins
c'est
fort.
Ça.
Merci beaucoup, Manuela Brault. Merci, Colline, d'avoir accepté de raconter son histoire à Agathe Le Caron. Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast des maternelles. On se retrouve demain matin, quand vous le souhaitez, en podcast, même la nuit. Bien sûr, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous avez autour de vous des futurs parents, des jeunes parents, n'hésitez pas à leur dire « Le podcast des maternelles, c'est pas mal, c'est pas mal ». Voilà, vous leur dites comme ça, même si vous avez une voix un peu moins ridicule que la mienne, ça va aussi. Salut tout le monde, ciao.